15h37 sur l'ensemble du réseau Cogeco. On va parler un petit peu plus tard à l'émission à Hélène Pelletier de la Coupe Rogers. La finale chez les dames est en cours présentement au stade IGA. Simona Halep vient de remporter le premier jeu de la troisième manche. Elle mène donc 1-0. Alors, les deux joueuses nous offrent un spectacle époustouflant jusqu'à maintenant. Et chez les hommes, ben, c'est à 16h à Toronto que ça va commencer. 12 août 2018, donc il y a 24 ans aujourd'hui, malheureusement, on déclenchait la grève dans le baseball majeur. Et cette année-là, ben, vous vous rappelez sans doute que les Expos étaient au premier rang dans l'Est, 74 victoires, 40 défaites. Ils devançaient les Braves d'Atlanta par 6 matchs, je pense, ou à peu près, au classement dans l'Est. C'était la belle époque de Philippe Alou comme gérant des Expos. Et là, quand on nomme les joueurs qui composaient l'édition 94, Marcus Grissom, Larry Walker, Moises Alou, Will Cordero, Mike Lansing, Daryl Fletcher, les lanceurs Ken Hill, Pedro, Jeff Facero, Butch Henry, Kirk Reeter, les releveurs Mel Rojas, John Whitland, Mark Griffin, est-ce que j'enfonce encore le couteau un peu plus loin ou j'arrête là?
ça fait aussi mal entendre ça 24 ans après. Hein?
Oui. Comment ça va, Marc?
Ça va très bien, merci.
Hey, merci d'être avec nous hein, après-midi pour nous parler de ça. Ça te rappelle... Te souviens-tu de cette journée-là, toi, du 12 août 94?
Oui.
Quand ils ont annoncé officiellement que la grève était déclenchée. Parce qu'à ce moment-là, on ne savait pas que c'était pour se prolonger. On se disait une semaine, deux semaines, mais ça s'est prolongé jusqu'en avril 95, cette grève-là.
Ben, c'est pour ça que le 12 août, on s'en faisait pas outre mesure.
Ouais.
C'est-à-dire que, comme tu l'as mentionné, on se disait, bon, ça va durer une journée, deux jours, puis après une semaine, il va tellement avoir de pression de part et d'autre que ça va se poursuivre. Écoute, jamais on avait annulé une saison, jamais on avait annulé une série mondiale. Donc, le passé nous laissait croire que ça allait se régler. Mmh. Alors, c'est pas finalement le 12 août qui... Oui, c'est la date que la grève s'est amorcée.
Exact.
Mais la vraie patente, la vraie date, c'est lorsque le commissaire a dit, là, c'est terminé.
C'est terminé.
C'est là que ça nous a frappé en pleine face. On s'est dit, mais ça, c'était vraiment la malchance de cette franchise-là.
Mais ça a-tu été le début de la fin des Expos cette année-là, lorsqu'on a déclenché la grève et lorsqu'on a confirmé que la saison était finie? Selon
ben,
toi?
Si tu regardes l'ensemble de l'existence des Expos, moi, je suis porté à dire absolument. Absolument parce que, bon, évidemment, ça ne garantissait pas que les Expos allaient faire les séries, même si on s'entend que 6 matchs et demi d'avance à ce statut de la saison, c'était énorme pour les Braves de revenir. Même si on s'entend pour dire qu'il y avait de fortes chances que les Expos se rendent en série. Mm. Moi, je pense que les gens avaient commencé à embarquer, évidemment, dans le processus avec cette saison-là. Et ce que la victoire peut amener, là, c'est inestimable. Une victoire, par exemple, en série, tu te rends en série mondiale, inévitablement, les billets de saison, les gens auraient embarqué dans ce processus-là. Puis moi, je pense sincèrement que tout ça aurait sauvé la franchise. Et non seulement ça, c'est que non seulement que la saison a été annulée, mais il y a eu la vente de feu de 95 qui a ajouté, évidemment, à tout ça, qui là, ça a eu l'effet totalement inverse, c'est-à-dire, mais là, on débarque, là. Si vous débarquez, nous aussi, on débarque. C'est à peu près le message que l'organisation lançait lorsqu'ils ont fait leur vente de feu. Alors, inévitablement, pour moi, ça a été, même s'il y a eu des bonnes saisons par la suite, là, quand même, il faut le dire, c'était quand même, dans la tête des gens, ça devenait extrêmement difficile de suivre cette équipe-là.
Marc, 24 ans plus tard, on parle beaucoup du retour éventuel des Expos. On dit qu'il y a beaucoup de travail en coulisses qui se fait. M. Bronfman avec ses acolytes, puis ils sont en discussion avec Rod Manfred. Est-ce qu'aujourd'hui, 12 août 2018, est-ce qu'on est... Sans dire que ça s'en vient, mais est-ce que le dossier avance? Est-ce qu'il y a des signes qui nous fait croire, qui te fait croire à toi que peut-être que dans une année, deux années, trois années, le baseball va être de retour à Montréal?
Ben moi, Yannick, je suis très optimiste. Très optimiste à bien des égards parce que, un, les gens qui sont derrière le projet, c'est des gens très sérieux, c'est des gens qui ont tout à perdre si ça marche pas bien. Là, tu comprends ce que je veux dire?
Oh, oui.
C'est des gens qui veulent embarquer, qui croient au produit, qui croient évidemment au baseball majeur dans cette ville-ci. Alors, il y a un paquet d'éléments qui me laissent croire que ça va fonctionner. Maintenant, le problème, je sais pas si c'est un problème, mais la balle est dans le camp du baseball majeur présentement. Mmh. Parce que il n'y a pas de processus d'expansion, à ce que je sache. J'espère que ça va venir plus tôt ou plus tard. Je sais que le commissaire veut régler les dossiers de Oakland et de Tampa Bay.
Exact.
Puis là, Yannick, je regarde ce qui se passe à Tampa Bay. Et là, avec tous les échanges qu'on a eus à la date limite des transactions, l'année prochaine, les Rays de Tampa Bay ont seulement 10 millions de dollars, je vais dire garantis, à offrir à des joueurs. Pas offrir, mais en contrat déjà signé. Ça, tu as 8 millions de Kevin Kiermaier, puis tu as 2 millions à Evan Longoria qui n'est même plus avec l'équipe. Tous les autres joueurs présentement sur la formation des Rays, c'est soit que tu les renouvelles automatiquement parce qu'ils n'ont pas le nombre d'années nécessaires, ou soit qu'ils s'en vont en arbitrage, ou soit qu'ils tombent en agent libre. On a rarement vu ça, là. Donc, puis tu le sais comme moi, là, on n'est peut-être pas les grands hommes d'affaires de ce monde, mais lorsque tu veux vendre, ben, t'essaies de pas avoir trop de factures. Hein,
ben non, c'est sûr, c'est sûr.
Alors là, moi, je me dis, il y a quelque chose qui va se passer à Tampa Bay, là. Parce qu'avoir seulement 10 millions de garanties à payer à des joueurs seulement, là, on s'est entendu qu'on est loin d'une masse salariale normale, il y a quelque chose qui fait que il y a des signes qui laissent croire qu'il va se passer quelque chose. Maintenant, est-ce que c'est positif du côté des Rays où justement ils veulent vendre à des intérêts locaux? Ça se peut ça aussi. Mais il va se passer quelque chose dans la prochaine année, selon moi, avec cette franchise-là, qui va peut-être ouvrir la porte éventuellement au retour peut-être plus rapide des Expos à ce moment-là.
OK, intéressant, intéressant. Autre dossier que je vais aborder avec toi. Hier, les Giants qui ont retiré le numéro 25 de Barry Bonds, ils ont fait ça 11 ans après son dernier match avec les Giants de San Francisco. Ils ont fait ça, évidemment, avec la présence des Pirates de Pittsburgh, l'autre équipe avec laquelle il a joué. T'as vécu ça comment, toi? T'as vu ça comment, le fait que les Giants retirent le numéro 25 de Barry Bonds au cœur de toutes les histoires de dopage? Puis on a toujours dit, ouais, il a peut-être pas fait ça clean. T'as vu ça comment? C'est un honneur mérité ou?
Ben, écoute, pour moi, oui, c'est un honneur mérité, là. On pourrait débattre longtemps de tout ça. Je sais qu'en même temps, on se cachera pas, là. C'est en même temps une campagne pour promouvoir Bonds éventuellement pour le temps de la renouvelle.
Oui.
Moi, je pense qu'il y a un peu de ça derrière, là. Est-ce que c'est uniquement pour ça? Non, mais il y a un peu de ça derrière, j'en suis convaincu. Tu sais, tu regardes la feuille de route de Barry Bonds. C'est sûr que là, il y a toujours le fameux doute. Puis, il a commencé à l'en prendre quand? Puis, il en a-tu vraiment pris pendant toutes ces saisons-là? Puis, c'est-tu seulement deux puis trois saisons? On ne saura jamais. Mais une chose est sûre, c'est que, tu sais, il y a des nouvelles statistiques dans le baseball, la fameuse statistique WAR, là, qui détermine à quel point t'es important à l'équipe. Puis, bon, en tout cas, je ne rentrerai pas dans les détails, mais c'est une statistique que certains trouvent intéressante. Bon. T'enlèves les 7 saisons où Bonds a été nommé le joueur le plus utile à son équipe et il est quand même parmi les meneurs de tous les temps.
Ah ouais.
C'est une carrière exceptionnelle qu'il a eue, bon, à tout point de vue. T'sais, les stéroïdes, là, c'est certainement une chose, c'est un œil au beurre noir au baseball à cette époque-là, j'en suis convaincu, mais ça reste que on n'a jamais été capable de prouver qui en a vraiment pris, qui en a pas pris, combien il en prenait. Pis... Alors, à un moment donné, il va falloir se dire... Est-ce qu'on passe outre ça ou on continue à douter puis à se demander, puis bon.
Et Marc, le baseball majeur était bien content qu'il y ait une course au coup de circuit avec Barry Bonds et Mark McGwire à l'époque. Puis ça faisait, tu sais, je veux dire, les gens ont suivi ça avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'intérêt. Puis honnêtement, à l'époque, en tout cas, là, le dopage.
Ça faisait l'affaire du baseball.
Ça faisait l'affaire du baseball, exact.
Ben, exact. Alors tu sais, je veux dire, bon, je sais qu'Éric Gagné en avait parlé dans son livre, il y en a d'autres qui se sont fait taper sur les doigts après, mais tu sais, les gars disaient que, bon, la moitié, la trois quarts en prenaient. Bon, tu sais, je veux dire, on le saura jamais. C'est une époque où, effectivement, le baseball n'a pas mis ses culottes.
Mm.
Là, aujourd'hui, il faut dire que le sport, c'est beaucoup... on a redoré un peu l'image au niveau, en ce que je pense, disciplinaire, là, parce que là, on est très, très sévère, évidemment, dans les sanctions, on est très sévère sur la façon dont les joueurs sont testés, puis tout ça. Bon, c'est parfait. Je pense qu'on a fait un beau ménage là-dedans. Mais ça reste une époque qui est quand même assez longue, qui a un fameux doute. Alors là, il va falloir qu'à un moment donné, quelqu'un dise, ben, ce que je trouve plate dans le fond, Yannick, dans le dossier-là, c'est que c'est comme si on met dans la main des chroniqueurs de baseball d'Amérique,
ouais,
le dossier des stéroïdes.
Arrangez-vous avec ça. Puis si
arrangez-vous
vous, si
avec
vous l'intronisez, ça, ben, vous dites, OK, on passe l'éponge. Puis sinon, ben, il y a encore un doute sur le gars.
C'est pas mal ça. Alors là, on est déchiré parmi les chroniqueurs de baseball d'Amérique, à savoir, mais tu vois, là, ça augmente. C'est Roger Clemens, Barry Bonds,
ouais.
Ils approchent tranquillement, pas vite. Est-ce qu'à un moment donné, le temps va arranger les choses? Tu sais, c'est pas impossible.
Hey, moi, je pense que, Marc, je vais te poser une question.
Ouais.
Puis peut-être que je te mets sur le spot, là. Si tu avais à voter oui ou non pour l'intronisation de Barry Bonds, accepterais-tu qu'il soit intronisé au Temple de la renommée?
Ben, écoute, moi, je l'accepterais. Puis okay. Je m'explique là-dessus. Puis, tu sais, encore une fois, là, je suis pas pour les stéroïdes.
Non.
Croyez-moi, j'ai été joueur, puis moi, on t'a dit, si j'en avais pris, peut-être que...
mais là, t'as pas de remords de conscience aujourd'hui.
Non, exactement. Mais ce que je veux dire, c'est que, tu sais, frapper une balle de baseball, là, c'est pas facile. Mm. Frapper une balle rapide à 95 000 à l'heure qui bouge, c'est pas facile. Puis tu me vendras jamais le fait que c'est parce que finalement que tes mains s'en vont exactement à la bonne place, que tu frappes la balle constamment à Paris, puis que tu vas faire. Tu comprends ce que je veux dire?
Oui, je comprends.
Alors, il y a tellement. Tu sais, j'ai ça comparé de sport en sport, mais tu sais, je regarde le cyclisme. Le cycliste, c'est évident que si tu prends une substance, tu vas avoir beaucoup plus d'endurance qui va t'aider carrément dans le résultat.
Mm.
Mais dans ce cas-ci, là, le lanceur, là, il faut qu'il lance une balle rapide sur le coin intérieur bas.
Mm.
C'est pas juste, OK, je ferme les yeux, je la lance le plus fort possible, puis je vais finir par gagner. Donc, il y a tellement d'aspects qui me fait croire que ce que Bonds a fait, ce que Clemens a fait, est tout à fait magistral. Maintenant, ce que vous voulez faire avec le reste, arrangez-vous. Ce que je veux dire, c'est que moi, je trouve que ces joueurs-là étaient exceptionnels. Je comprends, par contre, les gens qui ne votent pas pour eux en disant qu'ils
ont triché. C'est des tricheurs.
Okay. Alors, mais je pense que c'est toute l'époque du baseball majeur à ce niveau-là qui est tombée un peu dans la tricherie, là, si on peut appeler ça ainsi. Mais là, c'est pas tout le monde qu'on tape sur les doigts. Puis c'est ça, des fois, qui m'agace un peu.
Marc, j'avais plein d'autres sujets, mais là, le temps file. Puis, ben, peut-être 30 secondes. Tu sais, on parlait des Expos en 94, 74-40. Je regarde l'affiche des Red Sox, 84-35. Ils sont meilleurs que les Expos dans le temps, là.
Ah, écoute, les Red Sox ne savent pas comment perdre. Ils ont une équipe qui peut vous battre de toutes les manières inimaginables. Très, très bien gérée par le gérant Alex Cora. Moi, je trouve que, écoute, ce que J.D. Martinez a apporté à cette équipe-là, c'est tout à fait exactement ce qu'on souhaitait d'avoir un peu de puissance. Ça a rendu Mookie Betts meilleur.
Mm.
Une équipe exceptionnelle. Je vois pas comment on peut faire en sorte que les Red Sox ne terminent pas premier de cette division-là.
Marc, merci beaucoup de nous avoir parlé, puis on va vous regarder ce soir à 20h avec Alain sur RDS Nationals Cubs que vous présentez au Réseau des Sports.
Exactement. Merci, Yannick.
Merci, Marc. À bientôt.
Plaisir.
Salut bien. Alors, Marc Griffin qui nous parlait donc de cette date du 12 août qui reste évidemment en mémoire, gravée en mémoire des amateurs de baseball. 94, c'était le déclenchement de la grève. Mais comme Marc l'a dit, c'est pas là que ça a commencé véritablement. Ben, en fait, oui, mais la saison était pas foutue le 12 août 94. Mais tu sais, ça a été le début de la fin parce qu'on a annulé la saison, puis il n'y a pas eu de série mondiale, puis ça a amené à ce que les Expos ont connu comme saison après des ventes de feu, puis tout ça, ça a été très, très, très difficile. On va s'arrêter pour la pause. Au retour, je vous parle de ce qui se passe présentement au stade IGA entre Simona Halep et Sloane Stephens. Ils sont en troisième manche. Et je vous dis également que la finale chez les hommes va commencer à 16h entre Tsitsipas et Rafael Nadal. Restez là aux amateurs de Sport Weekend. On est là jusqu'à 17h sur l'ensemble du réseau Cogeco.